Bonjour, ça va être une émission sur les mots de la tribu et consacrée à la parole. Maintenant, je reprends. La littérature était à l'honneur au Salon du Livre de Paris, mais il ne faut pas oublier qu'il existe des grands poètes juifs de langue française, Claude Vigée par exemple, Jérusalem, et en France, Alain Suyède. Et cette émission sera consacrée à Alain Suyède, avec des ponctuations sonores, empruntées à un musicien qui a des racines juives, qui s'appelle Olivier Greff. Voici à quoi ressemble Olivier Greff d'ailleurs. Alain Suyède, dont il est question aujourd'hui, est une des grandes voix poétiques de ce temps. Il est aussi connu comme traducteur éminent. C'est grâce à lui que William Blake, Dylan Thomas, Edwin Meer, qui est un poète écossais un peu moins connu, mais aussi bien Bob Dylan, William Faulkner, John Cowper Powys, et surtout John Keats, dont il a merveilleusement traduit l'Exode. Il a également beaucoup travaillé sur Paul Celan, dont il a traduit quelques poèmes. Alain Suyède est un peu différent des autres poètes que l'on peut connaître, parce que c'est un penseur de la judaïté, non pas d'une judaïté imaginaire comme le faisait Edmond Jabès, mais une judaïté véritable. Il est l'un de ceux qui nous mettent en garde contre ce renouveau de l'antisémitisme actuel, et il en démonte les rouages jusqu'aux racines chrétiennes, jusqu'à Shaul de Tarse, c'est-à-dire Saint Paul, c'est-à-dire jusqu'à la négation complète de l'être juif. Sur Alain Suyède, au niveau biographique, je serai très bref, sachant seulement qu'il est né à Tunis en 1951 et qu'il vit maintenant à Paris. Il porte donc en lui tous les murmures, le jasmin et le savoir de l'ancienne communauté juive de Tunis, dont il veut porter mémoire et héritage. Il se tient à l'écart de tous les cénacles et les réseaux parisiens, et donc il dérange toute la bonne société littéraire, parce qu'il en dénonce toutes les récupérations, par exemple sur Paul Celan, qu'on essaie maintenant de faire quasiment, un disciple d'Heidegger. Et c'est lui qui a écrit ce lumineux Kaddish pour Paul Celan, que vous pouvez trouver d'ailleurs sur le net. Il démonte toute l'ignominie, par exemple, d'Heidegger, contrairement à Alain Finkielkraut, qui reste complètement aveugle sur ce penseur des nazis. Il démonte aussi la lâcheté, aussi, parfois, de la communauté juive, qui, face au nouvel antisémitisme qui monte, se fait la politique de l'autruche. Il part en guerre contre Alain Badiou et toute une certaine extrême gauche, quelques philosophes et aussi l'extrême droite négationniste. Et d'ailleurs, les deux se rejoignent, l'extrême gauche et l'extrême droite, dans un pro-islamisme et une louange de la victime très christique où le Palestinien remplace le Christ en croix avec la même imposture. Pour donner à entendre cette voix prophétique essentielle, le mieux c'est de rendre tangible sa voix et par un premier texte qui s'appelle « La parole et son objet ». La parole et son objet. J'écris dans les interstices du temps, dans l'entre-deux où l'objet et la parole se rencontrent ou seulement se croisent dans l'illusion de se confondre, où se devinent parallèles sans lien ni contact. J'écris dans un temps dérobé. Dérobé au social, à la vie quotidienne. J'écris à la dérobée. Le soir, après une journée de travail, entre les obligations de la vie associative ou professionnelle, sans disposer vraiment d'une marge pour ce travail et cette obligation, écrire une parole poétique. Devenir un individu. Devenir humain. Écrire une parole. Mieux, casser l'écriture par l'irruption de la voix. Comme un témoignage casse une version convenue d'un fait qui se donnait comme établi. Écrire contre. Contre l'autorité de l'écriture. Au sens où elle se donne comme discours de pouvoir, sans discontinuer, et écrire pour la vérité, vers la vérité, vers la possibilité d'un objet à la parole. Écrire une parole pour laisser une trace. Une trace de qui s'évade sans fin ou sans recours, dilapidée aussitôt. La parole. J'écris, même quand la vie passe devant moi et que tout me manque, papier et stylo pour écrire. J'écris même quand je rêve soudain une parole intense et signifiante et que le réveil m'en prive. J'écris même quand je traverse les épreuves de ma vie, de mes choix, et que tout me manque, force et volonté. J'écris même lorsque l'indicible impose à ma vue un horizon sans limite. J'écris dans les interstices du temps inventé par la société humaine, dans l'entre-deux où l'objet est absent, éloigné, inaccessible, et la parole illusoire, incertaine, inadéquate, et où pourtant ils se rencontrent, ici, et maintenant, ou un jour prochain dans le cœur de l'autre, qui est leur but et leur lieu, leur seuil imaginaire transitoire, mais voué à la seule chance d'une transmission. J'écris dans l'utopie de l'être. De vous préciser que les extraits musicaux d'Olivier Greff sont extraits de la sonate des Requiem, qui est jouée par Emmanuel Bertrand et Pascal Amoyel, et plus tard, ça sera le trio avec piano. Olivier Greff, justement, mais je ferai une émission un jour là-dessus, né en 1950 et mort en 2000. Revenons à l'insuède. Cette folle espérance de l'utopie de l'être, de l'autre, du partage et de la transcendance, le porte donc à se battre et à écrire envers et contre tout, même si les maisons d'édition se montrent frileuses et craintives, et par exemple Gallimard, parfois lui referme la porte parce qu'il refuse certaines compromissions. Alain Suyed est avant tout un poète juif fier de l'être. C'est lui qui a écrit cette phrase que je trouve très belle. « Ne parlons plus des juifs ». Parlons aux Juifs. Effectivement, je pense que devant la déliquescence des communautés juives en France, il y a urgence. Alain Suyed fut très tôt dans la vocation poétique. À 15 ans, il était déjà l'ami d'André Fresneau, qui est un très grand poète. Et à 16 ans, il avait envoyé par la poste un poème pour la revue L'Éphémère. La revue L'Éphémère, c'était la revue tenue par André Duboucher et aussi co-dirigée par Paul Celan. Il a reçu une réponse, toujours par la poste, en lui disant « Mais venez donc, cher poète, on vous attend, parler de votre poème. » Il a sonné à la porte, on l'a regardé, on lui dit « C'est pas vous qu'on veut voir, on veut voir votre père. » Personne n'arrivait à croire que cet adolescent de 16 ans qui sonnait était l'auteur de ses poésies reçues comme ça par la poste. Il fut donc un enfant poète. Un enfant poète qui aura stupéfié ses grands aînés. Et dans une lettre qu'il envoie à Yves Bonnefoy, il dit ceci. Pour montrer quelle est sa maturation actuelle et ce qu'il est devenu. Je ne suis plus l'enfant poète d'alors, mais j'ai maintenu le travail du poème dans l'absence de reconnaissance, dans l'indifférence du monde abasourdi de sa propre violence. Et je peux dire que le lot du poète est toujours de paraître l'étranger. Je déchiffre la shérina et je formule énigme et présence. » Dans cette citation-là se contient à peu près tout ce que veut être Alain Suyed. D'abord, il vit dans toutes ces portes qui se referment, cette absence de reconnaissance. Il faut révéler, mais ce n'est pas une révélation, que le milieu littéraire, c'est pareil à Toulouse d'ailleurs, est un milieu où on se renvoie l'ascenseur. Je te publie, tu me publies, t'es copain avec moi, etc. C'est un copinage ahurissant. Et dès qu'on ose élever la voix et aller à contre-courant, par exemple, ce qu'a dit Suyed sur la récupération de Paul Celan a absolument fait monter un mur de violence contre lui. Ensuite, il a beaucoup écrit sur ce qu'il appelle la violence du monde, la montée du narcissisme des gens et également de ce antisémitisme rampant qui ne rampe plus, qui commence à se devenir debout. On comprend qu'avec toutes ses caractéristiques, il soit l'ami, par exemple, d'Henri Méchonic et de bien d'autres poètes justes, comme on dit, de certains êtres, et non inféodés à la mode parisienne ou aux compromissions. Alain Suyed est aussi un poète métaphysique. C'est ainsi qu'il qualifiait André Fresneau, sur lequel il a écrit des textes magnifiques. Et lui, Alain Suyed, a choisi de chanter d'une part dans sa généalogie, dans l'arbre de sa culture juive, en se souvenant de sa culture séfarade, bien sûr, mais en connaissant de l'intérieur également tout ce qu'il appelle la Shérina, c'est-à-dire toute cette pensée de la Kabbale autour de cette enveloppe de la présence, non pas la présence telle qu'elle est vue aussi bien par bonne foi par les chrétiens, qui est une sorte d'apparition, j'allais dire sans consistance, mais la Shérina qui est une sorte d'enveloppe divine qui vous accompagne. Pour lui, voilà ce qu'il dit sur sa judaïté. Une éducation juive passe par la Genèse, source même du poétique. La parole humaine se tourne vers l'autre et affirme que le dialogue est la vérité fuyante de l'âme humaine. C'est un nouvel état de conscience de l'humanité. Le refus du sacrifice humain, la prise en compte de la transmission, la saisie du destin humain limité par sa condition rude, fragile, mais qui peut et doit se vivre dans le respect d'autrui et la victoire sur nos conflits intimes et sociétaux. Cette leçon est toujours en cours. C'est aussi ma conception du poème. Affrontement avec le réel, et non, comme on le croit, fuite dans l'imaginaire. C'est cet art poétique d'Alain Suyède, que je vais illustrer par la lecture de deux poèmes, qui explique d'une part une certaine difficulté de rentrer dans sa poésie. Ce n'est pas une belle série d'images, ce n'est pas la grande mode actuelle de la poésie un peu, j'allais dire, mathématisée à la Jacques Roubaud ou rendue un peu curieuse avec Michel Legui qui m'avait dit cette phrase effrayante. Heidegger est le plus grand poète du temps, ce qui m'avait valu une engueulade magistrale où je l'avais traité de nazi, ce qui lui a pas plu. Voici la lecture donc de deux poèmes. L'un sera La blessure à Babylone, l'autre L'enfant laissé de parole.
La blessure à Babylone, écrit à l'occasion de la nouvelle année juive. L'exil n'est pas le prix de la liberté. Souviens-toi, les eaux se sont ouvertes et tu es devenu adulte au désert. Souviens-toi, le temple fut détruit et nul manne plus jamais ne t'a nourri. Souviens-toi, l'empire s'est écroulé et tu as retrouvé la seule lumière. Et pourtant, tu n'as jamais vu se refermer la blessure à Babylone. Entre le nom perdu et l'innommable, souviens-toi, l'exil n'est pas le prix de la liberté. L'enfant lesté d'ancêtre. L'enfant dans la chambre d'hôpital. Le vieillard submergé par son propre corps voit la violence absurde et féroce se jeter contre leurs rêves troués d'absence. Qui donne leur souffrance en pâture et à quelle force innommable? Illusion. Nous avançons au-dessus des abîmes. Nous avançons et jamais ne revient la vision première. Le mirage de l'amour, la promesse ravagée d'espoir qui nous offre la délivrance. Et par quelle force invincible?
dans les deux poèmes que je vous ai lus, vous voyez qu'il n'est pas fait usage d'images soyeuses et séduisantes. Non, ce sont des mots rudes. On dirait même qu'elles sont écrites en langue hébraïque, tellement les mots sont choisis de façon compacte. Il ne faut pas oublier que Paul Celan et André Alain Suède sont proches. Suède dénonce avec véhémence l'état actuel de la poésie française qui a subi les désastres du structuralisme, qui sort exsangue un peu actuellement, qui est mathématisé, qui semble vidé de sens, et qui surtout, et ça c'est le péché le plus grave aux yeux d'Alain Suède, qui oublie et nie et renie toutes ses racines judéo-chrétiennes. Alors, bien évidemment, celui qui a dit la vérité doit être éliminé, comme le disait un chanteur. Il est donc mis à l'écart des réseaux du pouvoir intellectuel qui s'auto-entretiennent, qui se partagent toutes les subventions de l'État et des institutions. Et il voit s'élever tout autour de lui une écriture de la récupération de certaines formes de la mystique juive par des gens qui ne comprennent rien à la mystique juive et qui, en fait, ni le juif qui essaie de récupérer ce qui est un peu dit dans la Kabbale ou ailleurs, mais en niant le juif. Je dirais, et c'est lui qui le dit aussi, que saint Paul a tué la Torah. Lui, Alain Suède, reste inspiré par la Shérina, et non par une quelconque présence floue et consensuelle, comme je l'ai déjà dit. Les poètes qui se veulent un peu sacrés, il y a Bonnefoy, mais il y en a bien d'autres, hein, ont une image flottante du sacré. Lui, Alain Suède, se réclame de la pensée juive, de la mystique juive, d'une poésie issue de la Genèse, ce qu'il appelle une poétique génésiaque, c'est-à-dire venant de l'origine, et comme si on assistait au premier matin de la création du monde, comme si rien n'avait été encore perverti. Il se sait maillon essentiel de la transmission, de l'héritage, de la création du monde et du Verbe. Il a dit une très belle phrase qui est la suivante: « Le ciel est le tissu de ton cœur. » Il est aussi un humaniste, comme l'est profondément le judaïsme. Il se questionne lui aussi sans trêve sur le rapport de la parole et de son objet. À quoi sert la parole, en fait? Qu'est-ce qu'elle veut dire? Qu'est-ce qu'elle peut dire? Et surtout, il veut croire à l'autre et à l'étranger. C'est d'ailleurs un midrash, quasiment, une petite histoire très courte, qui s'appelle « L'étranger, le poète », puisque le poète est toujours l'étranger. Une légende racidique raconte qu'un étranger cherche son chemin pour sortir d'une ville dont il ne parle pas la langue. Toute la journée, il erre et nul ne le comprend, nul ne le dirige sur la bonne route. Le soir venu, un autre étranger, qui ne parle pas sa langue, ni la langue de la ville, le rencontre et lui indique le bon chemin pour sortir de la ville. Le poète propose un chemin, mais aujourd'hui qu'il écoute, l'espérance est dans les cœurs. C'est cette façon donc d'être par ce midrash que je trouve, moi, très yiddishisant, que l'on peut comprendre la poésie et la démarche, surtout, d'Alain Suède.
L'avenir a les yeux ouverts. Rien n'est plus cher aux hommes que leurs illusions. Les farces et les forces du narcissisme se dévoile plus aisément dans certains cercles poétiques et dans les attitudes, positions et postures de certains poètes, capables de gérer leur image, mais rarement de déceler ou de régler les questions d'identité et de simple vitalité qui se posent à la poésie aujourd'hui. Un genre qu'ils ont parfois contribué à reléguer à la mode de l'absence de sens des années 1960, au service d'idéologies surannées et cruelles. Le poème a ses voix propres, sa pensée et surtout sa liberté, qui sait rire des miroirs complaisants. Mon travail de poète consiste à tenter de trouver ces autres voies, ces autres chemins intérieurs. Perdre ses illusions, briser les idoles, telle est la nécessité poétique aujourd'hui, pour que survienne à nouveau et autrement le risque fertile de l'aventure poétique. L'avenir a les yeux ouverts. Il ne faut pas sous-estimer ses possibles. Il en va de même pour la voix ténue, souterraine, vraie, du poème.
Dans ce texte essentiel d'Alain Suède qui s'appelle « L'avenir a les yeux ouverts », je pense que tout est dit et nous éclaire, et vous éclaire, j'espère aussi, sur cette démarche extrêmement intègre, rude. C'est plutôt la parole haletante et rocailleuse de Moïse que la parole séduisante d'Aaron qui est dite ici. On est ramené à une vérité rugueuse. Alain Suède est lucide au monde. Son problème, c'est qu'il est lucide jusqu'à la blessure et qu'il en souffre. Pourtant, il combat. Il combat ce qu'il appelle la rage narcissique qui se révèle encore aussi bien dans le monde chrétien que dans le monde philosophique. Celui qui veut à tout prix nier l'être juif, nier l'identité juive, nier la loi. Et la loi vient du monde juif. Ce meurtre rituel, ce besoin de sacrifice humain, qui provient par le basculement chrétien à partir de Saint Paul, Shaoul, je vous le rappelle, et je n'en avais déjà parlé dans d'autres émissions, consiste, et Alain Suède qui a beaucoup étudié la psychanalyse en parle, ça consiste en fait à la suppression du père. Le peuple juif serait un peu le père des autres religions qui ont suivi. Et il faut supprimer toute trace de ce père-là, de ce témoin, ne serait-ce que pour détourner son héritage spirituel et le faire disparaître ensuite, lui, celui qui sait, dans l'oubli. Alors le juif sera jamais celui qui a failli, le Judas, le traître, celui qui ne doit pas exister, celui qui n'a pas compris le message de Dieu. Et donc, on peut faire de nouvelles alliances, mais avec des anneaux païens. Il faut donc le nier, couper tous ces liens possibles de transmission, et donc le dénigrer à jamais. C'est contre tout cela qu'Alain Suède combat. Donc, vous voyez que c'est plus qu'un poète juif, c'est un penseur juif, et un penseur juif essentiel. Quel dommage que la communauté juive ne l'écoute pas plus. La poésie juive, dans ses origines, a d'abord été ancrée par les psaumes, puis elle s'est forgée dans l'exil et le brassage. Voici comment Alain Suède la définit. La poésie juive, elle est fidélité-ouverture. C'est une flamme de Shabbat, un cri intérieur, un appel à l'espoir et à l'autre. Je trouve cette définition magnifique. La poésie juive, une flamme de Shabbat, un appel à l'espoir et à l'autre. Je ne sais pas s'il y a de plus belle définition de la générosité et en même temps de l'ouverture. Il dit aussi ceci. La poésie est une voix intérieure et elle est écoute aussi. C'est un travail qui ne finit pas, qui sait que tout est dans l'échange et le partage. Les voix secrètes souterraines de la poésie savent parler au cœur. Bien sûr, ce défi l'isole, mais il nous rend Alain Suède si proche et si cher.
Jacob, chanson au bord des âmes. L'amour, ce n'est pas seulement aimer, c'est être happé soudain par un ange qui vous élève, vous tire vers le haut, comme au-dessus de vous-même, comme au-delà de votre histoire. Et le désir n'est plus le désir, et la pesanteur n'est plus la pesanteur, et l'incertitude n'est plus l'incertitude. L'amour, ce n'est pas seulement aimer. Être aimé, ce n'est pas seulement l'amour, c'est être reconnu soudain par un regard qui vous enveloppe et vous guide vers vous-même. comme au-dessus de votre condition, comme au-delà de nos pulsions. Et l'égarement n'est plus possible, et la trahison n'est plus possible, et l'alignation au passé lointain s'efface. Être aimé, ce n'est pas seulement l'amour. Sans étoile, tu viens des étoiles, et ta parole de lumière brille. Un défi au néant ou l'ultime feu d'une mémoire abolie? Tu reviens des étoiles, et ton regard enfin s'ouvre sur la lumière perdue mais future de notre exil inassouvi. Effroi. Sur le corps est écrit l'effroi sans lettres de sang ni de capitulation. L'effroi initial, le premier abandon, le silence des espaces. Et soudain se détache un visage, un geste, un sein, un appel, on ne sait. Et soudain le corps saigne une demande jamais éteinte. Ose écouter ton effroi. Il te ramène au seuil de la vérité, ouverte, libre, à toi seul, déchiffrable. À la secrète présence. À chaque instant, nous construisons une forme virtuelle. À chaque instant, le corps murmure. Elle n'existe pas. À chaque instant, s'ouvre et se ferme la porte du rêve. À chaque instant, l'être s'échappe de nos silences. À chaque instant, la parole nous éveille à la secrète présence.
Ainsi, Alain Suède s'avance, comme il le dit lui-même, ravagé d'espoir. Il est tout entier tendu dans la transmission, cette transmission qui passe par les enfants et le sable des déserts. Il semble avoir tourné ses yeux loin des ponts et des chemins des lourdes pierres du réel, ce réel violent que l'on nous fait chaque jour. Lui ne s'est pas enfui dans la mémoire ou dans l'oubli, ni dans l'éphémère, mais dans un temps prophétique. Des coplas, dites de ses premiers poèmes, jusqu'aux remparts de Gilgamesh ou de Babylone, de maintenant, il y a beaucoup de renaissance à faire et aussi quelques abandons quand l'espoir n'est parfois vous fuit. Tant de lest jeté pour s'élever vers d'autres ailleurs. J'écris dans les interstices du temps, dira-t-il de son écriture passion. Les illusions du présent le révulsent, mais la délivrance est incertaine, l'effroi initial certain, et le monstre de sa propre illusion rit toujours sur votre épaule. Par les mots qui servent d'appeau à une invisible présence, les rêves de la poussière se déchiffrent enfin, à qui sait les lire, et par ce ressassement de questions des fous et des poètes, une présence sera bien obligée de se montrer. Et les ombres capturées parlent entre elles de ce temps qui n'est plus. Lumière initiale, dont toute la poésie l'introduisible rappelle. Alain Suède, on a dit de lui que c'était un poète des origines. Non pour établir un royaume ou une histoire, mais pour restaurer l'arche du langage, celle qui traverse le désert et qui sait l'énigme, celle qui émet la première lueur inconnue qui nous fera exister. Est-ce que nous vivrons dans le monde ou dans son absence? Voilà le seul questionnement qui semble valoir. En tant que poète, je cherche à formuler l'origine, dit Alain Suède. Mais en tant qu'être vivant à une époque donnée, dans une langue donnée, dans des conditions spécifiques, je ne peux que savoir et regretter que l'origine est déjà perdue, infiniment future, infiniment incarnée dans la messianité d'un seul regard vivant et aimant. Ainsi va la poésie d'Alain Suède.
Poème. Toutes les langues disparaissent, tous les monuments tombent en poussière, tous les regards se perdent dans les galaxies de l'espace inconnu. Pourtant, tu dois écouter la poussière. Elle te dira l'amour vibrant, l'amour premier, l'amour qui sait combattre les ombres, regarder au fond du cœur la mélodie de l'univers. Pourtant, tu dois écouter la poussière. Elle te dira l'amour sans mots, l'amour sans mensonge, l'amour qui sait retrouver la langue oubliée des galaxies, l'amour qui fonde la joie, même sur les rêves de la poussière. Les femmes juives, d'où vient cette force qui vous porte, au cœur des épreuves et au fil de la transmission? Cela existe et perdure, et vit cette force qui vous porte et porte l'enfant pour faire face à qui n'a pas de visage humain. De quel rêve futur? De l'autre côté. Attention! De l'autre côté, il n'y a rien. J'en reviens. Ni désir, ni rêve, ni même leur retour. Et la terreur d'exister jouait son dernier tour. J'en reviens. De l'autre côté, il n'y a plus de lien. Il y a un visage. Il n'a pas d'ombre ni de reflet. Il y a un visage. Je suis égaré dans sa lumière. Je dois revenir du côté du vivant. Je traverse la frontière et je cherche ton regard absent. De l'autre côté sauvage, un feu m'a brûlé. C'était la griffe acérée de tes yeux sans partage. De l'autre côté, il n'y a rien. Peut-être une blessure. Un regard oublié qui revient, ou sa mélancolie sans mesure. Je me penche au bord du vide, et soudain ton absence a un poids. C'est une trace inattendue, ride sur la face des eaux. Une voix qui souffle soudain du passé, le vent muet de l'autre côté. Bonjour, pauvre visage. Bonjour, pauvre visage. Si tu as choisi, dans la rigueur du matin, de revenir dans l'être, si tu portes sur le front la rosée des morts, comme si le combat de la nuit avait noyé les ombres, comme si tu reprenais pied dans l'apesanteur du vivant. Tu portes les marques, les traces, les éclairs de mémoires inconnues. Tu sais, par l'âme ou le cerveau, que des rires et des cris ont martelé ta face. C'était un autre jour, c'était une autre langue, dans le premier éclat de l'univers. Et si tu écoutais vraiment la rumeur du temps, tu pourrais presque saisir le fantôme de nos vies. Bonjour, pauvre visage. Si tu as choisi, dans la candeur du matin, de revenir dans l'être, si tu portes sur le front l'absurde ignorance des vivants, comme si le combat de la nuit avait déçu les ombres, comme si tu perdais pied dans l'océan de la vérité. Le métier d'être, on ne voulait pas l'apprendre, on ne se voyait pas emporté par le fleuve du devenir, ni menacé par les tourbillons de la perte, mais sont venus les fantômes au milieu des rires et des flots. On ne se voyait pas dépossédé par le fleuve de la naissance, ni emprisonné par un lieu inexistant, mais sont venus les symboles au milieu des crises et des blessures. Le métier d'être, il est toujours inachevé. C'est pour donner un visage à tous nos regards perdus. C'est pour se rejoindre un jour au bord de l'infini, au bout de nos métamorphoses.
Voilà pour vous donner une idée de cette voix d'exigence, de cette voix de lucidité. Donc ces quelques poèmes, il y en aura d'autres encore. Je dois vous signaler quand même quelques livres que vous pouvez vous procurer. D'abord, ces traductions. Il faut vous précipiter sur les odes qui sont en poésie Gallimard, les odes de John Keats, qu'il a complètement recréées. D'ailleurs, on peut comparer avec d'autres traductions, c'est vraiment un travail admirable. Il y a ce qu'il a fait sur William Blake, qu'on peut trouver, qui va être réédité chez Harfouillen. Il y a également tous ses poèmes. Il y a Le silence qui est au Mercure de France, La lumière de l'origine, à Granit, Premier regard, L'éveillé, Laisser partir, Le pays perdu, Ce qui écoute en nous. Mais la grande originalité, le courage pour briser l'encerclement, pour briser ce bunker dans lequel on veut enfermer une voix prophétique, Alain Suyed l'a fait sur un site. La plupart des poèmes d'Alain Suyed, vous pouvez les lire, je vous conseille de les lire, sur un site qui s'appelle www.poesiefr.rmc.fr. Oui, RMC a un site qui accueille. Donc, il suffit de taper http://www.poesiefr.rmc.fr et vous trouvez une bonne cinquantaine de poèmes, tous admirables d'ailleurs, d'Alain Suyed. Et donc, c'est cette démarche absolument étonnante. Je connais aucun poète qui veuille se donner ainsi à lire gratuitement comme cela, en passant par-dessus toutes les maisons d'édition. C'est donc ce courage pour aller vers l'autre qui est aussi intéressant. Pour vous parler d'Alain Suyed, je vais vous citer ce qu'a écrit une amie commune, qui s'appelle Sylvie Germain. Elle dit deux choses. Elle dit celle-ci d'abord. Vous écrivez au cœur du langage, au cœur du creux en fuite, au cœur manquant, et qui cependant n'en finit pas de battre, tout bas, obsédant. Et elle a aussi cette phrase merveilleuse qu'elle a écrite à Alain Suyed. Comme Paul Celan, vos poèmes évoquent ces petits cailloux que l'on dépose sur les tombes, graviers ramassés sur les chemins du temps, de la douleur, des nuits, mais où luisent des grains de jour, des promesses de sens en perpétuelle et secrète floraison. Je trouve ça magnifique et très juste. Il y a également un autre grand poète juif vivant, très âgé, qui s'appelle Claude Vigée, que j'avais eu la joie de rencontrer, qui dit ceci à Alain Suède. Tous mes voeux de santé et de joie dans votre activité si féconde de poète et de porte-lumière, dans le monde voué à la violence, livré à la nuit des hommes et au silence des choses obtuses qui nous assiègent. Tenez bon dans notre monde obstiné, sans renoncer à demain, nourri par un hier d'où jaillit la sève de notre âme future. Avec ma fidèle amitié, Claude Vigée. Je trouve ça très beau parce que si j'avais à définir moi aussi Alain Suède, ça serait un porte-lumière dans un monde voué à la violence et livré à la nuit. Et il faut des êtres comme Alain Suède pour tenir bon. Et pour vous aider à tenir bon, malgré la difficulté de rentrer dans cette poésie, j'en suis conscient, on va faire place aux mots encore d'Alain Suède.
Ombre capturée. De notre monde, recevons-nous les chiffres indéchiffrables et la mort est-elle qu'un code inconnu ? Ombre, je connais votre pays, je parle votre langue étrangère. Enfant, j'ai dû ramener à l'épaule un frère, une femme capturée, qui m'envole peut-être et réclame votre royaume oublié. De notre monde, et pourtant familière, les ombres ont la teneur des rêves et le grain des pauvres souvenus. Ombre, je connais votre pays. J'ai dû parler votre langue perdue. J'ai partagé le pain de l'étoile écarie. De chute en chute, de silence en silence, tu tends la main en vain. Les eaux se séparent et tu tombes dans la poussière du désert. Tu viens toujours de naître. De brûlure en brûlure, de soleil en soleil, tu tends la main en vain. Les cœurs se séparent et tu tombes dans la matière du vide. Tu viens toujours de naître. De rêve en rêve, de réveil en réveil, tu tends la main en vain. Les vies se séparent et tu tombes dans les abysses de l'absence. Tu viens enfin de naître. 40 jours, 40 ans, 40 ans, 40 jours. 40 ans dans le désert et nul ne comprend la loi. 40 jours pour parfaire l'arche et nul n'a la foi. Enfant de la poussière, vous ne savez pas servir le roi. Alors, pourquoi laisser le moi s'aveugler de son propre mystère, de sa propre misère? 40 ans, 40 jours et quoi? L'infinie différence de la lumière. Énigme et Shekhina. Le poème nous éclaire de la lueur du premier matin et du dernier sourire. L'enfant le sait. Il a baigné dans la lumière vivante. Qui dérobe la splendeur, qui nous jette dans l'obscur? Quelle haine, quelle envie ont-elle reconstruit Our dans les cœurs et la peine et la peur? La présence nous éclaire de la lueur du premier matin et du dernier sourire. L'adulte le sait. Il a trahi le rêve éblouissant. Et pourtant, à nouveau elle disparaîtra, la ville de la fausse parole. À l'horizon, Abraham verra poindre le jour de l'éternel réveil.
Voilà, ces derniers poèmes sont des poèmes très récents. Ce sont des poèmes inédits que m'a envoyé Alain Suède. Et j'ai donc un conseil à vous donner. Si vous avez un amour de votre identité juive, et même pour les non-juifs, si vous voulez savoir ce qu'est une haute parole, une parole, j'allais dire, de porte-lumière, comme le dit si bien que le Vigée d'Alain Suède, lisez écouter et surtout aller sur le site, je vous ai dit, de poésie-rmc.fr. Également, beaucoup de poèmes d'Alain Suède lui sont consacrés sur Esprit Nomade. D'abord en tant que poète lui-même et en tant qu'écrivain sur les poètes anglais qu'il traduit merveilleusement. Chers auditeurs, cette émission était peut-être difficile, mais elle était essentielle parce que Alain Suède parle de l'essentiel et est un poète essentiel. Au revoir. Thank you.